Je viens de recevoir, dans mon courrier, un journal qui circule parmi les chrétiens de langue anglaise dans 50 pays du monde. Ce journal m'apporte chaque semaine des nouvelles de l'Église dans le monde entier. Il m'apprend par exemple que les chrétiens au Brésil ont enfin accès à une chaîne d'émetteurs radio qui va leur permettre de diffuser le message de la Bible à des milliers de leurs concitoyens. Il m'annonce que telle campagne d'évangélisation a contribué à la conversion de 93 personnes. Qu'un pensionnaire d'une prison suédoise s'est converti après avoir suivi un cours biblique par correspondance et que la direction de la prison lui a donné exceptionnellement la permission de s'absenter pendant quelques heures un dimanche en compagnie d'un évangéliste, juste le temps de recevoir le baptême par immersion et de participer à la Sainte Cène. Ici, c'est une assemblée dans une grande ville américaine dont les jeunes ont acheté un vieil autocar avec lequel ils font chaque fin de semaine un ramassage d'enfants pauvres qui sont alors lavés et habillés et qui reçoivent une instruction religieuse ainsi que des soins médicaux dans une atmosphère d'amour et de joie. Là, c'est un groupe composé de 4 ou 5 familles qui effectuent un exode. Ils quittent leur ville pour aller s'installer tous ensemble dans une contrée où il n'y a pas d'église. 5 familles, ça fait environ 20 personnes. Ça fait déjà une assemblée. Elle grandira vite avec la foi missionnaire qui anime ses membres. Voici encore un missionnaire et sa femme, au cœur de l'Afrique noire, s'efforçant de remplacer l'idolâtrie par l'amour du Christ vivant. Et cet autre couple missionnaire, qui nous fait part de ses aventures gastronomiques, car il travaille dans un pays où ce que l'on sert à table n'est pas toujours accueilli avec enthousiasme par un estomac occidental. Cette semaine, ce journal publie un témoignage de grande valeur qu'il faut que je partage avec vous. En lisant l'article, j'ai immédiatement pensé à vous tous qui m'écoutez chaque semaine. Il s'agit d'une dame du nom de Louise Dur, une dame toute simple. Il y a environ 3 ans, contactée par une assemblée chrétienne et encouragée à étudier la Bible régulièrement, elle se convertit. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Voilà une femme heureuse, comme d'autres chrétiennes dans son entourage. Son véritable témoignage commence le jour où elle apprend qu'elle est atteinte d'un mal incurable dont on ne parle que par euphémisme. Mais elle n'a pas peur de l'appeler par son nom, comme vous vous en rendrez compte. Elle sait qu'elle est atteinte du cancer. Dès lors, elle se met à écrire de nombreuses lettres à des personnes qu'elle sait habitées par la même maladie. Elle écrit aussi une lettre à l'assemblée qu'elle fréquente, et où elle a appris ce qu'était une véritable communauté chrétienne. C'est un extrait de cette lettre que je veux d'abord vous confier. La lettre est adressée à mon assemblée. Ne croyez pas, je vous prie, que j'essaie d'attirer l'attention sur le fait que je suis malade. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes bien plus malades que moi. Mais mon cœur est rempli de tant de choses à vous dire que je veux vous en parler avant que Dieu ne me rappelle à lui. Oh, combien je le remercie de vous avoir envoyé vers moi. Elle se souvient et elle raconte comment elle a été contactée par 2 jeunes filles qui ont frappé à sa porte. Au début, confie-t-elle, tout en acceptant qu'on vienne chez moi pour étudier la Bible en famille, je me méfiais, je me sentais tendu et regrettais parfois de vous avoir ouvert ma porte. Je me préparais à vous résister de toutes mes forces. Lorsque Charles, mon mari, décida de prendre le baptême, je ne l'approuvais pas du tout. Je lui dis même « Tu ne sais pas à quoi tu t'engages ». Et je décidai d'inventer des excuses pour cesser les réunions que nous avions commencées. Mais le sourire, la douce sincérité de ceux qui venaient régulièrement pour nous apprendre à aimer le message de la Bible faisaient fléchir ma résistance. Ce n'est que lorsque j'entendis mes propres enfants parler de Dieu avec naturel et chanter des cantiques joyeux, lorsque mon mari me fit part de son enthousiasme d'avoir trouvé une assemblée de chrétiens dynamiques, amoureux de la parole, et dont la compagnie était si enrichissante, que je commençais à comprendre que notre famille avait à sa portée cet élément vital qui lui avait manqué. C'est à ce moment-là que Dieu remporta sur moi une grande victoire. Vous avez tous participé à cette victoire, par vos paroles, votre affection, votre sollicitude, grâce à la prière, au Seigneur, au Christ vivant en vous et à ces quelques coups frappés à ma porte. Je regrette tellement de ne pas avoir pris le temps de connaître chacun de vous personnellement. Je regrette de ne pas avoir invité chacun de vous chez moi. Je regrette aussi de ne connaître certains de vous que de vue. Mais je veux que vous sachiez tous que lorsque je suis avec vous, je ressens profondément votre présence chaleureuse et votre amour dans le Seigneur. Je suis bouleversé quand je regarde vos visages dans l'assemblée. Vous voyez, puisque je ne peux plus chanter avec vous, je regarde et j'observe davantage. Alors je vois la ferveur de vos chants qui font gonfler les veines de votre cou. Je vois des larmes qui ruissellent et des yeux qui se ferment pour mieux adorer en chantant. Ma gorge se serre d'émotion en considérant les jeunes gens dans l'église. La gentillesse de Robert, le sourire de Larry et David qui est le héros de mon fils. Je voudrais pouvoir les nommer tous, mais je vois surtout les visages et je sens leur présence. Et vous les jeunes filles, si belles, si gracieuses, que Dieu donne à ma fille de vous ressembler quand elle aura votre âge. Je prie que le Seigneur ne perde jamais sa place d'honneur dans vos cœurs. Soyez toujours reconnaissants pour le privilège de l'avoir connue dès votre jeunesse. Pouvez-vous seulement imaginer ce que sera l'Église dans cette communauté lorsque vous deviendrez les anciens et les conducteurs spirituels, les grands-parents de demain, si le Seigneur n'occupe pas dans votre vie et jusqu'au bout la première place? Pouvez-vous pleinement vous rendre compte de tout ce que vous pouvez gagner pour le Christ en l'espace d'une vie pendant laquelle vous aurez vraiment vécu le christianisme? Certes, c'est un travail de longue haleine, mais je vous en prie, ne vous impatientez pas et ne résistez pas à l'appel de Dieu. Prenez soin de cette Église que j'aime. Efforçons-nous tous à en faire un lieu où l'on se sent tout près de Dieu jusqu'au jour où il décidera de nous rappeler à lui. À la lecture de cette lettre, nous pouvons sentir tout ce que le vrai christianisme a apporté à cette femme et l'importance qu'il a dans sa vie, au point d'en occuper tous les aspects. On sent profondément que cette femme ne va pas à l'Église. Elle lui appartient, comme elle appartient à Christ. Et il n'y a pas de distinction entre ces deux appartenances. Voici une autre lettre, écrite cette fois à une maman comme elle, qui traverse la même épreuve. Écoutez. Je ne vous ai rencontré que pendant quelques minutes, mais assez longtemps cependant pour voir l'immense affection que vous portez à votre fils. Je sais exactement ce que l'on peut ressentir au moment où les médecins vous disent « cancer » et comment le choc peut faire vaciller jusqu'à votre foi. Qu'importe ce que peuvent vous dire docteurs, parents ou amis, je doute fort qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit à ce moment-là. Étant assez nouvelle dans la foi, je ne suis sans doute pas aussi forte que vous, mais j'ai foi en Dieu et ma confiance en lui grandit chaque jour. Je m'en remets totalement à sa volonté. Je refuse de m'attarder sur moi-même. La douleur ne me quitte jamais. C'est comme un mal de dents continuel qui se serait emparé de mon corps tout entier. J'ai la sensation d'avoir un cancer généralisé. Mais je ne permettrai pas que la panique entre en moi. Si Dieu le veut, je vais vivre et travailler pour lui. Si sa volonté est au contraire que je quitte cette vie et que je laisse là mes deux enfants, je n'affligerai pas mon prochain en lui donnant le spectacle d'une femme qui se lamente. Je me réjouis à la pensée de voir mon Seigneur, mais je le supplie au fond de moi de me laisser assez de temps pour élever mes enfants, les voir prendre le baptême, se marier et être heureux. Vous avez été bénis en ce que vous avez pu élever votre fils, savoir qu'il a une femme merveilleuse et voir vos charmants petits-enfants. Vous voyez, vous avez été comblés. Si nous nous mettions à compter nos bénédictions et si nous mettions à profit chaque jour de grâce qui nous est accordé pour nous rapprocher de Dieu, je lui parle dans presque tout ce que je fais. Je pense que nous serions vraiment heureuses au lieu de tristes. Priez. Priez et priez encore. Je vous assure que Dieu nous vient en aide en nous donnant la force de tout supporter. Je vous en prie, ne soyez pas amers et ne vous démoralisez pas lorsqu'il prononce le mot « cancer » devant vous. Peut-être Dieu nous a-t-il envoyé ce mal pour nous aider à nous tourner vers lui. Je dois avouer qu'autrefois, je ne faisais aucun cas de Dieu, sauf lorsque c'était pratique et que ça ne me coûtait rien. Sœur Bancro, promettez-moi une chose. Mettez-vous à genoux et dites à Dieu, « Voilà, je suis à toi. Fais ce que tu veux de moi. Ma vie est entre tes mains. Je ferai tout ce que tu voudras. Et il vous donnera la force dont vous avez besoin. Je puis même dire que vous serez alors peut-être plus heureuse que jamais auparavant. J'ai personnellement connu plus de joie cette dernière année que durant toute ma vie. » Pour quelle raison nous a-t-il envoyé cette maladie? Je ne le sais pas. Mais il me suffit de savoir qu'il a une raison. Nous la connaîtrons un jour. Se pourrait-il que Dieu nous veuille à son service, nous et notre cancer ? Allons, qu'il nous laisse vivre, ou qu'il nous prenne bientôt, soyons fortes toutes les deux. Lorsque je me sens assaillie par la mélancolie, je vais me faire faire une mise en pli et je lis ma Bible sous le séchoir. Alors, promettez-moi de ne pas vous apitoyer sur votre sort. J'avoue que cela m'arrive quelquefois. Mais la prière est un si grand soutien. Bien à vous dans l'amour du Christ, signé Louise Dur. Louise Dur est décédée le 1er novembre dernier, quelques mois seulement après avoir rédigé la lettre que je viens de vous lire. Pour moi, son attitude lucide et courageuse devant l'irrémédiable, sa foi faite de confiance, d'assurance et de joie, sont un commentaire vivant du psaume 23 de David, où le roi élève vers Dieu ce merveilleux chant de confiance et de sérénité. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Elle a mis un baume dans le cœur de tous les malades qui l'ont connue, et tous ceux à qui elle a écrit, même les bien portants, en ont retiré une grande leçon devant leurs épreuves plus petites. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous ce témoignage, car je sais qu'il apportera à la plupart d'entre vous la même émotion enrichissante qu'à moi, et surtout qu'il sera pour certains d'entre vous un message tout personnel.